Bienvenue à notre échange. Aujourd'hui, on va s'attaquer à un gros sujet, la transition numérique dans l'architecture, et plus particulièrement cet outil, ou plutôt cette méthode, qu'on appelle le BIM. On va se baser sur un webinaire assez récent de l'Ordre des architectes, qui a, disons, mis le doigt sur pas mal de tensions. La question est donc la suivante, est-ce que le BIM est une vraie opportunité pour tout le monde, ou est-ce que c'est un défi qui risque de creuser un fossé dans la profession ? De mon côté, je défendrai l'idée que c'est une évolution nécessaire et surtout accessible, même pour les plus petites agences. Le dissident.
Et moi, je vais soutenir que cette vision est un peu trop optimiste et qu'elle se heurte à une réalité de terrain bien plus complexe. Le BIM, tel qu'il est mis en place aujourd'hui, est pour moi un risque de fracture, une vraie fracture, au sein de la profession.
Alors je me lance, juste un chiffre pour commencer. 63% des architectes interrogés estiment que le numérique est leur deuxième plus grand défi pour l'avenir. On parle donc d'une vague de fond, on ne peut pas passer à côté. Et au cœur de tout ça, il y a le BIM. Mais il faut être clair sur ce que c'est. Ce n'est pas juste un logiciel pour faire de la 3D. C'est avant toute chose une méthode collaborative. D'ailleurs, les mots qui reviennent le plus, c'est communication, collaboration, synthèse, échange. C'est vraiment un changement de culture. Et je pense que cette transition, elle est gérable. Il y a des stratégies, on peut se former, on peut démarrer avec un projet pilote. L'architecte Patrick Thomas en est un très bon exemple. C'est une petite agence, 3-4 personnes, et ils font du BIM depuis 2014. Ils ont commencé avec des outils très simples comme SketchUp, en s'envoyant les maquettes par email au début. Ça montre bien qu'on peut y aller progressivement.
Le dissident.
Cette vision, pour moi, elle semble un peu déconnectée de la démographie réelle de la profession. Il faut quand même se rappeler d'un chiffre clé. 77% des agences d'architecture en France, ce sont de toutes petites structures, une ou deux personnes. Et pour elles, la réalité est radicalement différente. D'ailleurs, les chiffres d'adoption le montrent bien. 52% des architectes, donc plus de la moitié, déclarent ne pas utiliser le BIM. Et ce que je trouve assez révélateur, c'est que le webinaire essaye un peu de noyer le poisson en disant que beaucoup font des briques de BIM sans le savoir. En fait, ça montre surtout le décalage qu'il y a entre le discours officiel et la pratique. Pour une petite agence, les obstacles sont justes. Immense. Il y a le jargon technique d'abord. Ensuite, il y a le fardeau financier et le temps à y consacrer. Les logiciels, le matériel plus puissant, la formation.
Et par-dessus tout ça, et c'est peut-être le pire, il y a un vide juridique total. Le juriste qu'intervenait Benoît Gunsley a parlé d'une absence de cadre législatif ou réglementaire. Qui est responsable de la maquette ? À qui elle appartient ? C'est un flou complet. D'accord, je comprends l'argument de la complexité, mais je suis convaincue qu'on le surestime. Si on prend l'accessibilité des outils, par exemple. L'exemple de Patrick Thomas, il est là pour ça. Il montre qu'on n'est pas obligé de viser tout de suite le logiciel le plus cher, le plus complexe. On peut adapter sa pratique. Et c'est là qu'intervient une notion qui est pour moi essentielle, l'Open BIM. C'est une démarche qui permet à chaque corps de métier, l'architecte, l'ingénieur, le bureau d'études, de travailler avec ses propres outils. Il n'y a pas un logiciel unique imposé à tout le monde. L'échange se fait via des formats de fichiers ouverts. Ça lève une barrière financière qui est énorme. Et pour les autres, le maître d'ouvrage, les artisans. Il existe des visionneuses gratuites, des viewers, qui permettent de consulter la maquette sans avoir le logiciel. L'écosystème est donc beaucoup plus ouvert qu'on ne l'imagine.
Le dissident, ouvert peut-être. Mais est-ce qu'il est fonctionnel ? Parce que l'exemple même de Patrick Thomas que vous citez, il est un peu à double tranchant. Parce que qu'est-ce qu'il raconte aussi dans son témoignage ? Il explique qu'il a dû remodéliser lui-même toute la partie structure du projet. Pourquoi ? Parce que le bureau d'études avec lequel il travaillait n'était tout simplement pas assez performant. C'est une difficulté de démarrage, c'est normal, le temps que tout l'écosystème monte en compétence.
Oui, mais qui paye pour cette difficulté ? C'est ça la vraie question. Dans ce cas précis, c'est l'architecte. Il a dû faire un travail en plus, un travail qui n'était pas prévu et j'imagine pas payé, pour compenser les lacunes de son partenaire. Ce n'est plus de la collaboration là, c'est un transfert de charge. Le succès du BIM, il ne repose pas sur un seul architecte surmotivé, il repose sur la compétence de tout le monde. Or, cet écosystème est incroyablement hétérogène. Et tant que ce sera le cas, ce sera toujours le plus compétent, et donc souvent l'architecte, qui devra boucher les trous. Le problème, ce n'est pas l'outil, c'est le niveau général. Je ne nie pas cette hétérogénéité, mais c'est un enjeu de formation, ce n'est pas une faille dans le processus BIM lui-même. Si on s'arrête à ces frictions du début,
on passe à côté du bénéfice principal, qui est la qualité finale du projet. La collaboration, même si elle n'est pas parfaite au début, elle permet de détecter les conflits bien en amont. Le fameux clash entre la structure et les gaines de ventilation, par exemple, on résout ça sur la maquette, des problèmes qui coûteraient une fortune à régler sur le chantier. La norme ISO qui définit le BIM le dit bien. Le but, c'est de faciliter les processus pour permettre de meilleures prises de décision. C'est ça la finalité. Et pour y arriver, oui, les plateformes collaboratives sont l'étape suivante, pour enfin sortir de ces échanges de mails qui sont une source d'erreurs sans fin.
Le dissident. Bah justement, cet idéal de collaboration, c'est précisément ce que les chiffres contredisent. L'étude présentée est sans appel. La très grande majorité des agences se situe au niveau de maturité 0 ou 1, c'est-à-dire qu'elles utilisent le BIM pour elles-mêmes, en interne, sans vraiment échanger de maquette. Le vrai saut, celui qui correspond à votre vision, c'est le niveau 2, l'échange de modèles. Et c'est là que ça se complique. Quant au niveau 3, la maquette unique dans le cloud, il est qualifié d'extrêmement marginal.
On est donc très très loin de la collaboration généralisée, quoi. Mais il faut bien commencer quelque part. Le niveau 1, c'est une première étape. C'est déjà une énorme amélioration pour la production interne. Le passage au niveau 2, c'est le défi d'après, c'est logique.
Le dissident. C'est un défi qui a un coût social. En voulant imposer ces plateformes, on risque surtout d'exclure une partie des acteurs. Je pense surtout aux petits artisans. Patrick Thomas le dit lui-même avec beaucoup de sagesse. Il ne faut pas les perdre en route. Or, c'est exactement ce qui risque de se passer quand on impose un outil numérique complexe à un charpentier ou à un plombier qui n'a ni le temps, ni les moyens, ni même l'envie de s'y mettre. On est en train de créer une fracture entre ceux qui conçoivent et ceux qui font. Ou alors, on fait monter en compétence toute la filière. Et l'architecte a un rôle absolument central à jouer là-dedans.
Je pense que le BIM, loin de l'affaiblir, renforce sa position. Il peut, et même il doit, prendre cette nouvelle mission de BIM manager, de chef d'orchestre numérique. Il reprend la main. Et ça ouvre même de nouvelles missions au-delà de la conception. Je pense au BIM GEM, gestion, exploitation, maintenance, qui consiste à utiliser la maquette pour suivre la vie du bâtiment. C'est une vraie revalorisation de sa fonction.
Le dissident. Mais comment est-ce qu'on peut parler de rôle renforcé si, comme le souligne l'architecte Olivier Salic, les maîtres d'ouvrage refusent de payer pour ça? Il le dit très clairement. Aujourd'hui, les clients n'acceptent plus de payer des honoraires en plus pour du BIM. C'est devenu une exigence de base, incluse dans le forfait. Donc ce n'est pas plus de pouvoir, c'est juste plus de responsabilité, sans la valorisation financière qui va avec. La structure des honoraires doit évoluer. C'est une certitude.
Mais un architecte qui maîtrise ses outils, il apporte une plus-value qui, à terme, sera reconnu. Il anticipe les problèmes, il réduit les coûts. C'est un argument commercial qui est puissant.
Le dissident. C'est surtout un fardeau supplémentaire aujourd'hui. L'architecte doit se former, mais il passe aussi un temps fou à former ses partenaires, à les aider, et même à éduquer son propre client. Il doit aller titiller le maître d'ouvrage, comme ils disent, pour savoir ce qu'il veut en BIM. Il porte tout le processus sur ses épaules. Et je reviens au vide juridique. En cas de problème sur la maquette qui sert de base à tout le monde, qui est responsable? C'est quasi systématiquement l'architecte qui se retrouve en première ligne. Alors plus de pouvoir, ou surtout plus de travail, plus de stress et plus de risques.
Donc pour résumer ma position, je maintiens que le BIM, si on l'aborde de manière progressive et stratégique, c'est un levier de modernisation et de qualité qui est indispensable. Oui, la transition est exigeante, c'est indéniable, mais elle est avant tout humaine. On dit que c'est un processus à 80% humain. C'est une chance pour l'architecte de réaffirmer son rôle à condition qu'il s'en saisisse. C'est la voie de l'avenir, y compris pour les petites agences.
Le dissident. Pour conclure de mon côté, je dirais que si le potentiel du BIM sur le papier est très séduisant, son déploiement actuel est une machine à créer une architecture à deux vitesses. Il ignore complètement les réalités économiques, humaines et juridiques de la majorité des architectes. Sans une revalorisation des honoraires, sans un cadre légal clair et sans une montée en compétences de toute la filière, des bureaux d'études aux artisans, le BIM restera un outil d'exclusion.
Notre discussion montre bien que le débat, au final, dépasse la simple question de l'outil. C'est une question de stratégie collective pour tout le secteur. Le dissident.
Absolument. Et la vraie question qui reste pour l'architecte sur le terrain, c'est de savoir si les bénéfices promis, qui sont souvent lointains, justifie les obstacles bien réels et immédiats auxquels il fait face tous les jours.